Donc un auteur comme Michel Onfray rencontre un succès évidemment important, tout en faisant une relecture de l'histoire du judéo-christianisme. Alors relecture qui effectivement est peut-être un peu partielle, voire même partiale à mon sens, notamment à travers des ouvrages centrés sur, je dirais, l'anti-hédonisme chrétien. Hein, lui-même défend un hédonisme, mais qui l'oppose à l'anti-hédonisme chrétien. Certains de ses ouvrages se vendent très bien d'ailleurs. Hein, c'est l'un des philosophes les plus lus aujourd'hui. Je pense notamment à L'art de jouir, Manifeste hédoniste, Le désir d'être un volcan. Ce sont des best-sellers qui sont censés nous exalter une modernité comme la nôtre qui se serait affranchie de tous les tabous qu'aurait fait peser sur l'histoire, la mentalité judéo-chrétienne. Pourquoi ? Parce que cette mentalité nous aurait culpabilisés à l'extrême, manifestant par là une véritable haine du corps et s'accompagnant également, nous dit-on, d'une dépréciation à l'égard de tous les plaisirs charnels. Alors cette vision, qui est évidemment, j'espère le montrer, un petit peu simpliste, cette vision est malheureusement partagée par un grand nombre de nos contemporains qui semblent ignorer que la haine du corps n'est pas tant le fait du christianisme que de certaines tendances alors qui ont traversé l'histoire du christianisme, mais qui, à mon avis, déforment le message chrétien, en tout cas le message biblique. Ce sont essentiellement des tendances gnostiques et manichéennes. Et ces tendances, vous le savez, on les rencontrait déjà dans certains textes de Platon, pas tous, mais notamment dans le Phédon de Platon, où effectivement la vision du corps est assez négative. Dans d'autres textes, Platon a une vision beaucoup plus positive, me semble-t-il, du corps. Dans le Phédon, c'est plutôt le corps vu comme tombeau de l'âme, alors que dans d'autres textes, le corps est plutôt vu comme un signe, donc évidemment une vision beaucoup plus positive. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme a été traversé par ces tendances manichéennes et gnostiques, mais il est aussi la religion de l'incarnation, hein, puisque c'est Dieu qui s'est fait homme dans le Christ. Et en tant que religion de l'incarnation, elle est aussi la religion chrétienne, la religion qui nous annonce la bonne nouvelle d'une chair qui est sauvée et qui est appelée à la résurrection. Alors ce qui nous invite peut-être plutôt à voir dans le christianisme une religion qui exalte le corps, alors exaltation évidemment, il faut être prudent quand j'emploie ce terme, mais qui nous invite plutôt à voir dans le corps une source de dignité incomparable, hein, surtout par rapport à d'autres religions. N'est-il pas, comme le disait Paul, le temple de l'esprit ? Alors je vais essayer de montrer dans un premier temps qu'est-ce qui distingue l'idéal grec de la vision chrétienne, notamment de la vision chrétienne de la chair. Je m'appuierai principalement sur certaines analyses assez classiques, hein, qui sont celles de Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, donc ça ce sera mon premier temps. Dans un deuxième temps, je vais m'appuyer principalement sur Saint Paul et sur certains passages des épîtres de Paul que je vais essayer de commenter pour montrer qu'en réalité, le manichéisme que l'on peut être tenté d'attribuer à Paul n'a pas vraiment lieu d'être. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Je montrerai aussi que même les versions, je dirais, les plus pessimistes du christianisme, notamment par rapport au corps, je pense en particulier à Saint Augustin, ne sont pas exemptes d'une recherche du plaisir, et notamment d'un hédonisme, alors qui n'est pas un hédonisme du corps et du plaisir charnel, mais qui serait plutôt un hédonisme spirituel. Et puis je terminerai peut-être en réhabilitant une vision, alors me semble-t-il un peu tronquée, du protestantisme et du puritanisme nord-américain, en montrant quelle est l'éthique conjugale qui se trouve précisément au cœur de ce puritanisme. Alors ce sera un petit peu mes quatre parties, et puis je terminerai par une conclusion. Bon, d'habitude, évidemment, une bonne dissertation fait trois parties et trois sous-parties, mais là, exceptionnellement, je fais quatre parties, mais ce n'est pas dans mes habitudes, je tiens à le préciser tout de suite. Alors, vous savez que l'hédonisme antique est principalement représenté par une des grandes figures qui est Épicure, même si, bien évidemment, les représentations que l'on associe habituellement à Épicure sont celles plutôt de ses disciples, de ses mauvais disciples, ceux qu'on a appelés les pourceaux d'Épicure, dont on se représente qu'ils se vautreraient finalement dans tous les plaisirs de l'existence. Mais cette vision est assez tronquée, elle n'est pas du tout la pensée du maître parce que l'idéal épicurien, même s'il fait effectivement du plaisir le souverain bien, et donc la fin de la vie bonne, néanmoins c'est un idéal d'une austérité absolument remarquable, hein, puisqu'il s'agit de rechercher uniquement le bien-être du corps et l'ataraxie de l'âme, l'absence de troubles. Mais l'idéal grec, c'est d'abord avant tout, me semble-t-il, un idéal de sagesse qui vise principalement à la maîtrise des plaisirs et à une certaine mesure. Hein, la vertu de tempérance est une vertu centrale dans la philosophie grecque. Or, le christianisme, de ce point de vue, va entraîner une mutation dans la conception de l'hédonisme, et notamment dans le statut du plaisir, parce qu'il va introduire, et Foucault le rappelle dans son Histoire de la sexualité, la notion de péché au cœur même du sujet désirant, aboutissant finalement à la rupture de cet équilibre que l'on rencontrait dans la philosophie grecque et qui était, je vous le dis, un idéal principalement de gestion et de maîtrise du plaisir. Dans son Histoire de la sexualité, notamment au premier volume qui s'intitule justement « L'usage des plaisirs », eh bien Foucault va mettre en lumière cette opposition, cette évolution également qu'il y a entre la Grèce antique et puis d'autre part l'expérience chrétienne des rapports de la chair et de l'esprit. Il faut rappeler que l'histoire foucauldienne de la sexualité, ce n'est pas simplement une histoire des comportements, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en d'autres termes de dire comment est-ce que les gens ont pensé le sexe, ce n'est pas une histoire des représentations autrement dit, mais ce n'est pas non plus une histoire des codes qui régiraient en quelque sorte la sexualité. C'est plutôt une histoire des modalités qui sont constitutives de l'expérience même d'un sujet désirant. Et Foucault va refuser, dans cette histoire de la sexualité, il va refuser finalement d'opposer un âge d'or qui serait celui de la sexualité grecque, de la période classique de la sexualité grecque, et puis un régime qui serait le régime répressif, lié en quelque sorte au christianisme. Ce qui caractérise en effet pour lui la sexualité antique, c'est principalement que son austérité, liée à cet idéal et à cette vertu de tempérance, elle ne va pas s'expliquer principalement par des interdits qui seraient des interdits sociaux ou religieux. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la façon dont les Grecs pensent l'art de vivre, et notamment l'art de jouir, il n'y a pas de codification des comportements qui seraient, par exemple, permis ou défendus. La fidélité, par exemple, dans les arts de vivre qu'étudie Michel Foucault, la sexualité, en fin de compte, la fidélité, pardon, n'est pas recommandée parce qu'elle serait une obligation, un petit peu comme c'est le cas, évidemment, dans le christianisme, ou alors parce que l'adultère serait un interdit, mais elle est recommandée dans la mesure où elle est le signe d'une belle vie, hein, c'est-à-dire d'une vie que l'on pourrait qualifier de correctement ordonnée. Et donc, ce qui est central pour cette philosophie grecque, finalement, ce n'est pas du tout l'opposition que l'on retrouvera dans le christianisme et dans la morale chrétienne entre des pratiques qui seraient permises et puis des pratiques qui seraient interdites, mais c'est plutôt, je dirais, une esthétique de l'existence qui s'intéresse finalement à ce qui conduit à une belle vie, à une bonne vie, à la vie bonne, hein, puisque c'est cette recherche de la vie bonne qui est au cœur de l'expérience grecque. Voilà pourquoi donc Michel Foucault donc va insister sur le fait que la ligne de partage entre l'expérience grecque de ce qu'il appelle les aphrodisias et puis l'expérience chrétienne de la chair, cette ligne de partage ne va pas passer, par exemple, entre la distinction que fera le christianisme entre les amours hétérosexuels, par exemple, et les amours homosexuels. Pas plus qu'elle ne passe entre les actes permis et les actes défendus, mais c'est plutôt une opposition dans la sagesse grecque qui passe entre une activité qui est mesurée, c'est-à-dire une activité qui est contrôlée, hein, parce que cette contrôle, cette maîtrise de soi participe finalement de cette esthétique de l'existence, et puis d'un autre côté, une activité que l'on pourrait qualifier de non maîtrisée, d'incontrôlée, qui renvoie justement à ce qu'on pourrait appeler l'incontinence, hein, par opposition à la tempérance. De même, la ligne de partage ne passe pas non plus entre donc les actes permis est défendu, mais elle passe plutôt entre activité ou passivité dans l'acte sexuel. Mais à chaque fois, évidemment, il n'y a pas cette idée d'une culpabilité originelle qui serait liée à la sexualité et que l'on retrouvera dans certains courants du christianisme, pas tous évidemment, mais en tout cas dans les courants, qui déforment le plus, à mon avis, le sens du message chrétien. Alors ce que considère la sagesse grecque, c'est que finalement la nature a posé en quelque sorte une force à la source des actes sexuels et que cette force finalement, elle peut parfois ne pas être contrôlée. Et lorsqu'elle n'est pas contrôlée, bien évidemment, ça tend vers l'hubris. Un hubris, c'est ce qu'on appelle la démesure. Voilà pourquoi la philosophie grecque et la sagesse grecque nous proposent finalement des techniques qui permettent de régler le bon usage de la sexualité. Alors, quelles formes vont prendre ces techniques selon Foucault ? Comment est-ce qu'on parvient à une sexualité réglée ? C'est par exemple la détermination des justes moments dans l'amour. C'est aussi un régime de restriction particulier pour ceux qui ont des tâches, par exemple gouverner. Cela requiert une certaine discipline de vie et donc une certaine discipline sexuelle. Voilà pourquoi l'activité amoureuse est régie par ce que l'on pourrait appeler un art des plaisirs. Et donc il ne s'agit pas ici, en matière en tout cas de bonne sexualité, il ne s'agit pas d'obéir à une loi universelle qui gouvernerait notre nature de pécheur, comme ce sera le cas dans le christianisme, mais il s'agit plutôt, dans la perspective qui est celle des Grecs, de rechercher un usage des plaisirs qui puisse être ajusté aux besoins de notre nature, qui puisse être ajusté aussi au moment opportun, puisqu'il y a le moment opportun pour faire l'amour. Il y a un temps pour l'amour et un temps pour la guerre. C'est une formule que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le judaïsme et dans le livre de l'Ecclésiaste. Et puis, il y a aussi donc cette recherche d'un art des plaisirs, mais lié au statut social de chacun. Voilà pourquoi le bon usage des plaisirs dans la Grèce antique, c'est un usage qui exige de la part de celui qui pratique ces activités un travail d'entraînement, un travail aussi de maîtrise sur soi et la tempérance, qui est la vertu qu'il faut acquérir par excellence, doit être comprise finalement comme une domination de soi sur soi, c'est-à-dire comme une victoire sur tous les penchants qui pourraient nous conduire précisément à transgresser les limites auquel doit conduire une existence ordonnée. Évidemment, ce rapport à soi, qui implique donc une maîtrise des plaisirs, est assez éloigné de ce que proposera le christianisme en la matière, parce que le christianisme cherchera plutôt, on va dire, à traquer les parcelles de concupiscence dans le moindre des actes sexuels ou dans les pensées. D'où une différence entre l'austérité grecque et l'austérité chrétienne. L'austérité grecque, nous rappelle Foucault, s'exprime sous la forme d'une stylisation de l'existence. Et le sujet éthique grec se caractérise donc par une maîtrise parfaite et exacte de ses plaisirs. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que la littérature médicale grecque ne fait pas mention de mal moral. Cette notion de mal moral, elle n'existe pas, en tout cas concernant la sexualité pour les Grecs. On ne la trouve pas dans toute la littérature, aussi bien médicale que la littérature dans son ensemble. Il n'y a pas non plus, comme je vous le disais, de codification dans les traités et dans les arts de vivre que l'on rencontre dans la Grèce antique. Il n'y a pas de codification des actes permis et des actes défendus. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que la sexualité extra-conjugale, donc en dehors du mariage, elle ne fait l'objet pour le mari grec, en tout cas à la période classique, parce que c'est moins vrai dans la période suivante qui est la période hellénistique, mais elle ne fait l'objet d'aucune restriction. Le mari doit simplement veiller à s'assurer, d'une descendance par son épouse légitime. On trouve certes des écrits qui encouragent la fidélité du mari, mais curieusement, ce n'est pas par devoir, comme ce sera le cas évidemment dans le christianisme, mais c'est plutôt comme le signe d'une tempérance, d'une maîtrise de soi, alors qui pourra s'exprimer tout aussi bien dans la gestion de sa propre vie économique que dans la vie politique elle-même, dans la gestion de sa maison également. La femme, du fait qu'elle a un statut inférieur, on est chez les Grecs, bien évidemment, on n'est pas chez les chrétiens, la femme, par contre, doit fidélité à son mari. Hein, elle n'est pas tenue à la même sexualité que son mari. Alors, un des grands problèmes, je dirais, qu'on rencontre dans la sexualité grecque, c'est celui aussi du rapport à la vérité. Et Foucault va insister beaucoup sur ce point, parce que la culture grecque va tenter de penser le lien entre, d'une part, l'usage du plaisir, et puis d'autre part, l'accès à la vérité, principalement dans le cadre d'une relation homosexuelle. Alors ça, évidemment, c'est valable principalement pour la période classique. De même que le christianisme tentera de penser le rapport entre la tentation de la chair et l'ouverture à la vérité, le christianisme le fera, lui, dans le cadre du mariage. On le voit bien notamment dans, je dirais, la dialectique ascendante du banquet, hein, parce que la question qui se pose dans le banquet, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut penser une relation pédérastique qui ne soit pas dégradante pour le jeune garçon, parce qu'il faut éviter que le jeune garçon devienne un objet de plaisir. Ce qui serait évidemment dégradant pour lui, puisque c'est un futur citoyen. Alors la solution que donne Socrate, hein, vous le savez dans le banquet, c'est que chacun des deux amants doit reconnaître dans son amour pour l'autre un commun amour de la vérité qui les dépasse en fait tous les deux. Et voilà pourquoi le travail de dégagement de l'amour vrai devra passer du coup par le renoncement au plaisir charnel. C'est ce que nous montre bien la dialectique ascendante du banquet, où le désir doit se purifier, hein, doit passer par une série de purifications qui passent de l'amour du beau corps à l'amour des beaux corps en général, puis à l'amour de la beauté intérieure, de la beauté de l'âme, pour ensuite s'élever donc par cette série ascendante jusqu'à l'amour du beau, qui n'est que le reflet du bien, la splendeur du bien. Alors, c'est vrai que le christianisme, de ce point de vue, propose évidemment une toute autre vision. Alors, vision qu'on a tendance à considérer comme pessimiste, puisqu'on considère le christianisme comme étant l'inventeur de la catégorie de péché, alors qu'il n'y avait pas cette culpabilité, évidemment, dans la Grèce antique. On accuse aussi souvent le christianisme d'être misogyne, parfois de manière, évidemment, un peu rapide, alors qu'il n'y a pas cette infériorité affirmée de la femme, comme c'est le cas chez les Grecs. Alors évidemment, il faut se garder de schématiser sur ces questions et notamment se garder de ramener la doctrine chrétienne des rapports conjugaux à ce qui serait une simple finalité de procréation et à l'exclusion des plaisirs. Certes, le christianisme a une vision pessimiste de la chair, de la sexualité, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette chair est dévaluée. Il s'agit de bien comprendre aussi le concept de chair, parce que ce concept de chair, j'aurai l'occasion de le rappeler par la suite, ne renvoie pas au corps précisément, hein, mais renvoie plutôt à ce qu'on appelle l'homme charnel, ou encore au vieil homme. Alors c'est vrai qu'on trouve différents courants dans le christianisme et dans l'histoire du christianisme. L'un des premiers courants à être apparu très rapidement, c'est ce qu'on a appelé l'ancratisme. L'ancratisme étant finalement un idéal de chasteté qui renonçait délibérément au rapport sexuel. On peut dire que l'ancratisme va culminer beaucoup plus tard, au XIIe siècle, dans ce qu'on appellera le catharisme, l'hérésie cathare étant précisément cette hérésie qui refuse la procréation et qui refuse tout rapport charnel. Jean-Claude Guilbault rappelle très justement dans son ouvrage sur la tyrannie du plaisir que l'interprétation de l'ancratisme doit se faire finalement dans une perspective qui est celle de l'apocalypse imminente, hein, parce que les premiers chrétiens croyaient que l'apocalypse était imminente, et ce qui explique justement qu'ils étaient dans une attitude qui était celle de la chasteté. Hein, voilà ce que rappelle Jean-Claude Guilbault dans La tyrannie du plaisir. Ainsi, choisissant la continence, ces premiers chrétiens n'obéissent pas au souci de fonder une morale ou je ne sais quelle civilisation durable, comme on le croit d'ordinaire, car sans procréation, ce serait d'ailleurs une absurdité. On ne peut pas fonder une civilisation durable, évidemment, sans procréation. Mais en revanche, ils souhaitent hâter, et ils s'en font même un devoir, l'effondrement de ce monde-ci, un monde qui sera bientôt emporté par le raz-de-marée du Messie. Alors c'est vrai que ce courant ancratiste est assez puissant, Il va bénéficier d'un certain prestige au 1er siècle. Et les adeptes de l'ancratisme, Jean-Claude Guilbault le rappelle, vont être perçus comme des athlètes spirituels, hein, comme des virtuoses, pourrait-on dire, de la continence, c'est-à-dire capables d'affronter tout aussi bien les tentations de la chair que la violence de la torture. Mais il faut se garder de réduire évidemment le christianisme à cette subversion à l'égard du monde païen que constitue l'ancratisme. Et les épîtres de Paul témoignent plutôt à ce sujet d'une pluralité d'attitudes envers la sexualité. Jean-Claude Guilbault le souligne notamment au sujet de la doctrine de Paul, où il montre que cette doctrine apparaît comme la recherche en réalité d'un compromis entre ce que l'on pourrait appeler l'extrémisme des ancratistes et puis la modération des communautés et familles païennes de l'Asie mineure qui étaient à cette époque évidemment en voie de conversion au christianisme. En outre, il ne faut pas oublier que lorsque Paul aborde la question de la continence, principalement dans l'épître aux Corinthiens, lui aussi s'exprime dans une perspective qui est celle de l'apocalypse imminente. Il s'attend d'ailleurs à la connaître de son vivant. On le voit bien dans plusieurs passages de l'épître aux Corinthiens, hein, je cite notamment 1 Corinthiens 7:20, « Que chacun demeure en l'état où l'a trouvé l'appel de Dieu. » En 1 Corinthiens 7:31, il précise « Elle passe la figure de ce monde et le temps se fait court. » Et en Thessaloniciens 4:17, il souligne « Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. » Alors, il est clair que certaines paroles de Paul, donc qui se placent lui aussi dans la perspective de l'apocalypse imminente, certaines paroles de Paul vont être montées en épingle pour faire de lui l'inventeur d'une dépréciation de la chair, un apôtre du célibat sur le modèle, finalement, de ces eunuques qui sont devenus tels en vue du royaume des cieux. Ça renvoie ici à une phrase célèbre du Christ, hein, lorsqu'il parle des eunuques qui se sont fait tels pour le royaume. Et pour justifier donc cette idée ou cette vision très négative, on cite souvent quelques versets de saint Paul sur le mariage, où il dit en 1 Corinthiens 7:8 « Il est préférable de ne pas se marier », ou alors qui font du mariage finalement une sorte de compromis qui serait réservé simplement aux chrétiens de seconde zone, c'est-à-dire aux chrétiens qui ne parviendraient pas à vivre pleinement cet idéal de chasteté. Hein, on trouve par exemple en 1 Corinthiens 7:9 que s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Ou alors en 1 Corinthiens 7:2, s'il faut avoir sa propre femme, c'est pour éviter l'impureté. Mais alors, en faisant cela, évidemment, en rappelant ces citations de Paul, ce que l'on oublie de dire, et il me semble important de le rappeler, c'est que Paul ne fait en réalité que répondre à une question qui lui a été posée par écrit et qui lui a été posée par des ancratistes. Et lorsqu'il écrit « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher sa femme », ce n'est pas lui en réalité qu'il parle, mais il ne fait que relater la formule de son interlocuteur, sachant qu'il y avait en face de lui évidemment des personnes très diverses. Il y avait aussi bien des Corinthiens qui faisaient l'éloge de l'inceste et de la prostitution, et puis il y avait aussi donc des ancratistes hein, qui partageaient évidemment une position qui était à l'opposé. Et donc le souci de Paul finalement, c'est de condamner l'ancratisme, et donc un idéal de chasteté qui refuserait la procréation, mais en manifestant qu'il y a peut-être une certaine vérité dans celui-ci, tout en évitant évidemment de tomber dans les abus dont se rendaient coupables les Corinthiens lorsqu'ils faisaient l'éloge de la prostitution et de l'inceste. Alors on oublie également de dire, ce que rappelle là encore Jean-Claude Guilbault, que les phrases de Paul que je viens de vous citer sont aussi accompagnées de phrases dont la tonalité est évidemment très différente. Voilà ce qu'écrit Paul en 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. « Que le mari s'acquitte de ses devoirs envers sa femme et pareillement la femme envers son mari. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. » Ou alors en 1 Corinthiens 7, versets 33-34, « Celui qui s'est marié se soucie des moyens de plaire à sa femme, celle qui est mariée se soucie des moyens de plaire à son mari. » Donc la position de Paul est en fait, je dirais, plutôt un compromis. C'est une position modérée qui est à l'opposé finalement de ce que l'on peut rencontrer à la même époque chez les manichéens notamment, parce que les manichéens vont professer un rigorisme qui n'a absolument rien à voir avec, je dirais, les perspectives chrétiennes. Le manichéen, donc manichéisme, vous savez, ça vient de Mani, qui était issu de Perse. Et Mani voyait finalement dans la sexualité, je dirais, une pulsion qui serait responsable de la propagation du royaume des ténèbres. Et il exprime dans des termes extrêmement forts sa répugnance à l'égard du corps, qui ne sont pas loin de rappeler certains textes de la Nausée de Sartre. Platon, déjà dans le Phédon, avait effectivement cette vision très dualiste, très manichéenne du corps, puisque je vous ai dit dans l'introduction que pour Platon, le corps est le tombeau de l'âme, alors qu'évidemment, l'accentuation de Paul est très différente quand il fait du corps le temple de l'esprit. Les manichéens seront d'ailleurs condamnés aussi bien par l'Empire romain que par l'Église, comme étant évidemment une hérésie totalement dangereuse. Alors, je voudrais simplement préciser pourquoi la vision chrétienne du corps n'est pas du tout celle que l'on rencontre dans le manichéisme et dans le dualisme platonicien, parce que le corps n'est nullement la cause de la déchéance de l'homme, comme c'est le cas par exemple dans le Phédon de Platon. Le corps est plutôt pur des maux dont on l'accuse, et pour une bonne et simple raison, c'est parce que le corps pris en lui-même ne désire pas. C'est d'ailleurs ce que Platon rappelait déjà, mais alors pas dans le Phédon pour le coup, mais dans un autre texte beaucoup plus nuancé qui est le Philèbe, où Platon montrait finalement que le corps, c'est finalement que le véhicule neutre par lequel transitent tous nos désirs. Mais ces désirs, ils ont leur source dans l'âme et non pas dans le corps. Je montrerai que le corps lui-même n'a que des besoins. Et donc, si c'est l'âme qui est la source de tous les désirs et non pas le corps, il est clair que si l'âme est corrompue, alors les désirs seront mauvais. Si l'âme est régénérée par la grâce de Dieu, alors les désirs seront bons. Et donc, ce n'est pas le corps qui est en lui-même la racine du mal et du péché, mais c'est bien l'âme, selon que cette âme est pure ou selon que cette âme est impure. Et en ce sens, on peut même penser finalement que le corps en lui-même, le corps pris en lui-même, est innocent. Alors même si, évidemment, le corps prend part au péché, mais ce n'est pas lui qui en est la source, parce que la source du péché, elle se situe dans l'âme et dans la corruption de l'âme. Le Christ rappelle d'ailleurs en Matthieu 15, 19, il nous dit que c'est le cœur, alors le cœur, je dirais, c'est l'équivalent biblique de l'âme, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. En Matthieu 6, 22, le Christ nous rappelle que la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans la géhenne. Alors il faut se rappeler qu'ici, l'œil est en même temps vu comme étant le miroir de l'âme. C'est-à-dire que quand le Christ parle ici de l'œil, en réalité, si l'œil est le miroir de l'âme, alors l'œil, c'est l'âme lui-même. Et donc le Christ nous invite finalement à purifier notre cœur, c'est-à-dire à purifier notre âme, parce que c'est dans le cœur, en réalité, que se situe la source du péché. Certes, la concupiscence vient de ce que nous voyons avec nos yeux de chair, parce que c'est nos yeux de chair qui sont sollicités par la concupiscence, mais attention, ce qui suscite notre convoitise, certes c'est ce que nous voyons, mais c'est notre cœur qui dispose de l'orientation de notre regard. Et donc en ce sens, si c'est notre cœur qui dispose de l'orientation de notre regard, il est clair que notre regard dépendra de la plus ou moins grande pureté ou impureté de notre cœur. Et donc la direction de ce regard, c'est notre âme qui en dispose. Et donc, en ce sens, si la concupiscence vient de ce que nous voyons, c'est nous qui disposons de l'orientation de notre regard. C'est nous qui disposons de l'orientation de notre cœur. Or, ce qui me semble faire la complexité de la doctrine chrétienne, c'est que finalement, le conflit ne passe pas tant du coup, comme c'est le cas dans le Phédon de Platon, le conflit ne passe pas tant entre l'âme et le corps qu'entre deux manières, en réalité, de vivre l'union de l'âme et du corps. Selon que l'on est un homme charnel ou selon que l'on est un homme spirituel, c'est-à-dire selon que l'on est, dans les termes de Paul, un homme pneumatique. Le chrétien, en effet, qui est régénéré par la grâce de Dieu, peut se laisser conduire par l'esprit. Et s'il se laisse conduire par l'esprit, alors, évidemment, son corps sera docile et discipliné. Il sera un homme spirituel, au corps lumineux, mais il peut aussi, au contraire, se laisser conduire par les désirs impurs de son cœur. Ça, c'est principalement le cas de l'homme charnel. Et alors, il vivra donc en homme charnel, c'est-à-dire qu'il laissera son corps lui-même tout entier dans la géhenne, pour reprendre une expression du Christ. Et donc, à travers ces nuances, on a bien la confirmation que la source de l'impureté ne se situe pas dans le corps. Hein, c'est toujours l'âme qui désire et qui, lorsqu'elle désire ce qui ne lui est pas apparenté, eh bien alors l'âme va chuter en dehors d'elle-même, elle va céder en quelque sorte à la convoitise du regard que génère un cœur qui est plein de concupiscence. Alors, la conséquence, c'est que si on prend le corps en lui-même, eh bien le corps est innocent. Il est innocent notamment des maux dont on l'accuse. Il n'est en réalité que l'occasion du péché, puisqu'il n'en est pas la source. C'est seulement parce que l'âme est unie, en d'autres termes, à un corps, que l'âme peut se laisser aller à la tentation. Mais ce n'est pas le corps qui est la cause de cette tentation. Il faut donc se garder de voir dans la dénonciation paulinienne de la chair, terme complexe, une dénonciation du corps pris en lui-même. Parce que, dans son sens biblique, la chair désigne l'homme tout entier. Et donc, suivre la chair ne consiste pas à assouvir les besoins du corps. Suivre la chair ne consiste pas à assouvir le corps. Au contraire, assouvir les besoins du corps, on va montrer qu'il n'y a en réalité rien de plus légitime. Mais ce que vise Paul, finalement, c'est la conduite charnelle. Hein, c'est ça qu'il dénonce. La chair renvoie une certaine manière de se conduire, une certaine manière de vivre l'union de l'âme et du corps. Et cette manière de vivre l'union de l'âme et du corps est une manière de vivre héritée de notre nature corrompue, héritée de notre ancienne nature, de notre vieille nature, autrement dit, héritée de ce que Paul appelle aussi le vieil homme. Or, la loi de la chair, c'est-à-dire la loi du vieil homme, s'oppose évidemment à la loi de l'esprit, à la loi de l'homme régénéré. Voilà pourquoi la régénération du cœur de l'homme, un cœur qui est purifié par la grâce de Dieu, qui est purifié par la foi, hein, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la circoncision du cœur, eh bien, cette circoncision du cœur va lui permettre désormais de crucifier tout ce qui, dans sa vieille nature, c'est-à-dire tout ce qui, dans sa nature déchue, peut faire obstacle à l'action du Saint-Esprit, de manière à marcher conformément aux directives du Saint-Esprit. Je vous donne ce passage qui est très clair de l'Épître aux Romains, c'est le chapitre 8, versets 5 à 14, où Paul nous dit « En effet, ceux qui vivent selon... » Alors, le passage ici est traduit par « vieille nature », mais ça exprime précisément ce que Paul entend par « chair ». La chair, c'est la vieille nature, c'est le vieil homme. « Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, du moins si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, l'injonction ici de Paul à faire mourir les actions du corps signifie que l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme pneumatique, ne doit pas se laisser conduire par les désirs constitutifs de notre vieille nature. Alors, désir auquel le corps participe, mais dont il n'est pas la source, comme on l'a vu, parce que c'est cette vieille nature qui doit être crucifiée. Et donc, si le christianisme, me semble-t-il, se distingue radicalement du platonisme, c'est parce que, en réalité, ce n'est pas l'attachement de l'âme au corps qui est la cause de la perte de l'âme, ce n'est pas l'attachement de l'âme au corps qui empêche l'âme de s'élever vers le monde intelligible, ça c'est effectivement ce que l'on retrouve chez Platon, où le corps est plutôt ce qui alourdit l'âme, c'est ce qui l'enlise, notamment qui l'enlise dans le sensible. Mais c'est plutôt l'âme elle-même, donc ce qui peut aussi être appelé le cœur au sens biblique, c'est l'âme elle-même qui, corrompue de l'intérieur, s'avère en réalité rester trop charnelle et ne désire pas conformément à sa nature propre, c'est-à-dire conformément à son essence. Voilà pourquoi on pourrait dire qu'en lui-même, si le corps participe au péché, il ne pèche jamais si l'on entend par là qu'il serait la source du péché. Pris en lui-même d'ailleurs, le corps n'a que des besoins. Et donc le corps ne pourra jamais excéder ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Prenons l'exemple du péché de gourmandise. En quoi consiste le péché de gourmandise ? Eh bien, le péché de gourmandise consiste, pour l'âme, précisément à désirer plus que ce dont le corps a besoin. Et donc, le péché de gourmandise consiste, pour l'âme, à aller au-delà de la limite que le corps a prescrit au désir d'une âme qui est toujours tentée d'en vouloir plus et qui tombe dans le péché précisément parce qu'elle veut plus que ce dont le corps a besoin, au risque évidemment de rendre le corps malade. Parce que si je m'adonne trop à ce péché de gourmandise, eh bien je vais finir par être écœuré et le corps va être rendu malade. Voilà pourquoi, entre parenthèses, précisément parce que l'animal n'a pas d'âme spirituelle, l'animal ne peut jamais tomber dans le péché de gourmandise. L'animal se contente finalement de donner satisfaction aux besoins de son corps. L'animal va manger à sa faim, par exemple, il va boire à sa soif, mais il ne peut pas commettre les excès dont le désir insatiable qui a sa source dans l'âme est seule la cause. On peut donc penser qu'il y a bien en ce sens dans le christianisme ce que l'on pourrait appeler une sagesse du corps. Et une sagesse qui finalement est tout à fait comparable à celle qu'Épicure assignait au plaisir lorsqu'il nous invitait, c'est la fameuse lettre à Ménécée, lorsqu'il nous invitait finalement à classer nos désirs en les hiérarchisant. Vous savez que Épicure distingue trois types de désirs. Il y a les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et puis ce qu'il appelle des désirs vains. Ce qui caractérise pour Épicure les désirs naturels et nécessaires, c'est qu'ils sont accordés aux besoins de l'âme et aux besoins du corps. C'est par exemple ce qui va permettre à l'âme d'atteindre l'ataraxie, l'absence de troubles, donc un état de quiétude, de tranquillité, ou au corps d'atteindre ce qu'on appelle l'aponie, c'est-à-dire un état de bien-être. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour Épicure, le plaisir, alors qui est un plaisir plutôt négatif, c'est-à-dire qui est un plaisir lié à l'absence de douleur, mais le plaisir que l'on obtient finalement en donnant satisfaction à ces désirs qui viennent justement combler le manque qui nous habitait, ce plaisir est un garde-fou contre l'illimitation de nos désirs. Parce que les désirs illimités, ce sont précisément ces désirs vains. Et si ces désirs sont vains, c'est précisément parce qu'on ne peut pas les rassasier. Parmi les désirs vains, il y a par exemple le désir de richesse. Or, celui qui désire la richesse n'aura jamais assez d'argent, il ne sera jamais satisfait. Et donc, c'est un désir qui ne pourra jamais être rassasié et qui ne pourra du coup jamais obtenir satisfaction. Et donc on ne sera jamais dans le plaisir, mais on sera dans le déplaisir permanent. Et donc lorsque le désir, au contraire, peut être satisfait, il s'accompagne d'un plaisir, plaisir qui témoigne finalement que le désir a été soulagé. Et en ce sens, les désirs qu'il faut chercher évidemment à satisfaire, ce sont principalement les désirs naturels et nécessaires. Donc le corps est bien ici, et le plaisir également, une source de sagesse pour Épicure. Eh bien, pareillement, on peut dire qu'il en est de même dans le christianisme, hein, au sens où on peut voir dans le corps une source de sagesse, puisque le corps, finalement, nous rappelle à nos besoins et permet d'éviter l'âme eh bien, de tomber dans ce péché de gourmandise qui va au-delà des besoins du corps lui-même, lorsque l'âme transgresse les limites, finalement, que les besoins du corps lui assignent. Alors, néanmoins, si la perspective chrétienne se distingue quand même de celle d'Épicure, même si vous le voyez, elle est plus proche d'Épicure, paradoxalement, que de Platon, si la perspective chrétienne, néanmoins, se distingue de celle d'Épicure, c'est parce que la satisfaction des besoins du corps ne suffit pas, néanmoins, à nous rendre parfaits. Et saint Paul reconnaît qu'il est juste d'assouvir les besoins du corps. Ce modèle, d'ailleurs, de justesse n'est pas sans rappeler la vertu grecque de tempérance, hein, qui vise à éliminer, on l'avait vu, les excès. Mais la perfection à laquelle doit aspirer le chrétien, alors perfection qu'il ne veut pas prendre dans un sens moral, sinon ce serait tomber dans une forme de pélagianisme, mais cette perfection, finalement, doit lui permettre de crucifier précisément notre vieille nature. Hein, parce que le chrétien, c'est celui qui doit pouvoir permettre d'être toujours plus à l'image du Christ. Hein, il faut que Christ, dit saint Paul, soit pleinement formé en nous. Et Christ ne peut être pleinement formé en nous que pour autant que justement nous parvenons à être de moins en moins dépendants du vieil homme, que nous parvenons en quelque sorte à le neutraliser pour vivre réellement en homme nouveau, c'est-à-dire sous la conduite de l'Esprit. L'invitation paulinienne de l'Épître aux Galates est d'ailleurs sans ambiguïté, hein, je cite ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates, « Or je dis, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, de la vieille nature, autrement dit. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre deux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si l'esprit qui vous anime, vous n'êtes plus sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, disputes, dissensions, scissions, sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec les passions et ses convoitises. » On voit très bien dans ce texte que ce serait un complet contresens, évidemment, d'assimiler la chair au corps. Parce que si, à la limite, on peut penser que la fornication, l'impureté et la débauche sont liées au corps, en quoi la magie, l'idolâtrie, la jalousie, parmi la liste des péchés que Paul énumère, peuvent-ils être en rapport avec le corps? Et donc il est clair que si l'on veut rendre le texte de Paul intelligible, eh bien, on voit que Paul vise ici nos désirs charnels, c'est-à-dire ces désirs qui ont une source, qui ont leur source dans une âme pécheresse et corrompue. Donc Paul souligne certes la nécessité d'une crucifixion de la chair et promeut en fin de compte le corps à une dignité sans précédent, puisqu'il en fait le temple de l'esprit. D'où vient cette confusion de la chair et du corps? Il me semble que sur ce point, même si j'aime beaucoup saint Augustin par ailleurs, mais il me semble que saint Augustin a quand même une responsabilité dans ce malentendu qui pèse encore aujourd'hui et qui parfois discrédite le christianisme. Parce que c'est avec Augustin que la contemption du corps va revenir au premier plan. Alors ce qui est peut-être un héritage du manichéisme et du platonisme finalement que saint Augustin a partagé à une certaine époque de sa vie, hein, notamment avant sa conversion. Vous savez que saint Augustin était proche des manichéens, puis ensuite il a lutté contre le manichéisme, et puis à la fin de sa vie, donc il luttait contre le pélagianisme en tenant finalement des positions très proches du protestantisme. Simplement, suite à ces frasques de jeunesse, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les frasques de saint Augustin sont bien connues, Augustin, je dirais, a pris un virage à 360 degrés, et on le présente souvent, notamment Michel Onfray, comme le promoteur d'une morale sexuelle ascétique. Voilà ce qu'on cite en général comme passage, notamment dans les soliloques, où saint Augustin écrit, je cite, « J'ai décidé qu'il ne fallait rien tant fuir que les relations avec une femme. Je crois qu'il n'y a rien qui abaisse plus l'esprit de l'homme que les caresses de la femme, que ce contact des corps sans lesquels on ne peut pas avoir une épouse. Alors évidemment, cette dépréciation du corps, et ici même du mariage, serait caricaturale si on en restait évidemment à certains textes de saint Augustin. Et pour mieux comprendre la position d'Augustin, je vais quand même essayer de défendre, eh bien c'est qu'il faut commencer par reconnaître que pour Augustin, finalement, le désir constitue une force aussi bien explosive qu'inquiétante et qu'on ne parvient pas totalement à maîtriser. Jean-Claude Guilbeault, à ce sujet, souligne, je cite, « qu'on trouve dans l'œuvre d'Augustin d'étonnants développements concernant l'érection ou au contraire le fiasco, car l'homme ne peut pas se rendre maître de cet organe-là. » Et dans la Cité de Dieu, donc Augustin, que cite Guilbeault, là, encore dit, enfin écrit plus exactement, en parlant du désir sexuel, hein, « cette ardeur survient parfois importune sans être appelée. Parfois, elle trompe le désir. L'âme est de feu, mais le corps est de glace. » Chose étrange. Quant aux organes de la génération, la concupiscence les a réduits en une telle servitude que si elle vient à défaillir, si elle ne se lève spontanément ou excitée, ils demeureront immobiles. Voilà ce qui nous fait honte, voilà ce qui se dérobe en rougissant au regard. Alors, en fait, ce que l'on voit ici, c'est que si saint Augustin déprécie la sexualité, c'est parce que la sexualité, c'est ce qui, pour lui, vient battre en brèche, en quelque sorte, la volonté. C'est cette part d'animalité qui, en nous, semble échapper totalement au contrôle de l'esprit. Voilà pourquoi la sexualité, de ce point de vue, dans ce qu'on ne peut pas maîtriser d'elle et qui échappe à notre contrôle, constitue pour Augustin la définition même de la chute. C'est d'ailleurs cette expérience d'une volonté humaine battue en brèche dont parle Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, lorsqu'il rappelle que l'homme concupiscent, donc l'homme entraîné à la concupiscence, est amené à faire le mal qu'il ne veut pas. On voit bien qu'ici, la volonté est en quelque sorte battue en brèche par cette concupiscence qui a sa source dans le désir sexuel. Et donc, ce qui est fondamental pour Augustin, c'est l'idée de chute. C'est la conséquence de la chute, c'est la conséquence de la déchéance, parce que le désir sexuel qui est lié à l'orgasme et associé à la procréation, certes, il n'était peut-être pas absent du paradis, mais au paradis, c'est-à-dire avant la chute, il était pleinement en accord avec la volonté. Il n'y avait pas cette contradiction que l'on rencontre après la chute. Et donc la conséquence de la chute, de la faute originelle, alors faute qui n'est pas une faute sexuelle, hein, vous savez, c'est lié plutôt à l'orgueil de l'homme, mais la conséquence de la chute, c'est une dissociation qui conduit finalement la volonté à ne plus pouvoir prendre pleinement possession de son corps. Et donc la concupiscence, c'est ce qui va réduire l'homme à un état d'infirmité. C'est vu comme une sorte de force étrangère que l'homme ne parvient pas à maîtriser. Et donc si Augustin nous invite à résister à la chair, c'est précisément pour réinstaller, mais cela ne peut se faire sans l'aide de la grâce, c'est pour réinstaller la volonté dans ce qui faisait sa majesté originelle. Alors, il y a incontestablement une suspicion augustinienne à l'égard des plaisirs charnels. Mais cela n'implique pas pour autant, et je crois que c'est important de le rappeler, une suspicion d'Augustin à l'égard du plaisir en général. Et au contraire, la conception augustinienne tend plutôt à opposer deux types de plaisirs, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les plaisirs de la chair, mais il y a aussi d'un autre côté les plaisirs de l'esprit. Et ce que montre saint Augustin, c'est que l'on ne peut triompher de l'attraction exercée par les plaisirs de la chair que par la plus grande force exercée par les plaisirs de l'esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ce sens, la théorie augustinienne de la grâce est un hédonisme. C'est un hédonisme qui n'est pas charnel, c'est un hédonisme spirituel, mais c'est un hédonisme quand même. C'est ce que saint Augustin appelle la théorie de la double délectation, théorie que l'on retrouvera aussi, bien évidemment, chez Pascal, qui qui est un disciple de saint Augustin. On retrouve notamment, particulièrement dans les écrits sur la grâce de Pascal, ainsi que dans les provinciales. Je me permets de citer ce long passage de la 18e lettre des provinciales, mais qui montre bien en quoi finalement l'homme se trouve écartelé entre les plaisirs de la chair et les plaisirs de l'esprit, et il ne parvient à triompher des plaisirs de la chair que si, avec l'aide de la grâce de Dieu, il trouve une délectation plus grande encore dans les plaisirs de l'esprit. Voilà ce qu'écrit Pascal. « Quand il plaît à Dieu de toucher l'homme par sa miséricorde, il lui fait faire ce qu'il veut, et en la manière qu'il veut, sans que cette infaillibilité de l'opération de Dieu détruise en aucune sorte la liberté naturelle de l'homme, par les secrètes et admirables manières dont Dieu opère ce changement, que saint Augustin a si excellemment expliqué et qui dissipe toutes les contradictions imaginaires que les ennemis de la grâce se figurent entre le pouvoir souverain de la grâce sur le libre arbitre et la puissance qu'a le libre arbitre de résister à la grâce. Car selon ce grand saint que les papes et l'Église ont donné pour règle en cette matière, Dieu change le cœur de l'homme par une douceur céleste qu'il y répand, qui, surmontant la délectation de la chair, fait que l'homme, sentant d'un côté sa mortalité et son néant, et découvrant de l'autre la grandeur et l'éternité de Dieu, conçoit du dégoût pour les délices du péché qui le séparent du bien incorruptible, et trouvant sa plus grande joie dans le Dieu qui le charme, il s'y porte infailliblement de lui-même, par un mouvement tout libre, tout volontaire et tout amoureux. De sorte que ce serait une grande peine et un supplice de s'en séparer. Ce n'est pas qu'il ne puisse toujours s'en éloigner, et qu'il ne s'en éloignât effectivement s'il le voulait, mais comment le voudrait-il, puisque la volonté ne se porte jamais qu'à ce qui lui plaît le plus, et que rien ne lui plaît tant alors que ce bien unique qui comprend en soi tous les autres biens. C'est ainsi que Dieu dispose de la volonté libre de l'homme sans lui imposer de nécessité, et que le libre arbitre qui peut toujours résister à la grâce, mais qui ne le veut pas toujours, se porte aussi librement et infailliblement à Dieu lorsqu'il veut l'attirer par la douceur de ses inspirations efficaces. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Pascal dans ce texte bien connu des provinciales ? C'est que l'homme conserve certes théoriquement, c'est ce qui distingue saint Augustin des pères de la Réforme, qui eux affirmeront clairement le serf arbitre. Pascal, de ce point de vue, suit saint Augustin, c'est-à-dire qu'il considère finalement que dans l'état de déchéance, autrement dit dans l'état post-adémique, l'homme conserve théoriquement le pouvoir de résister à la grâce. Mais ce pouvoir reste purement théorique, parce que dans les faits, l'homme touché par la grâce ne résiste jamais. Au même titre que le libre arbitre, lorsqu'il est laissé à lui-même, le libre arbitre ne résiste jamais aux concupiscences qui habitent l'homme pécheur. Voilà pourquoi Pascal reprend à saint Augustin cette notion d'infaillibilité de la grâce qui est destinée finalement à montrer que la grâce ne manque jamais d'atteindre son effet, bien qu'elle n'impose par elle-même aucune contrainte sur la volonté. Voilà pourquoi on peut parler en un sens d'une irrésistibilité de la grâce chez Pascal. On peut résister en théorie, mais si on ne résiste pas, ce n'est pas parce qu'on ne le peut pas, c'est simplement parce qu'on ne le veut pas. Mais comme c'est Dieu qui dispose notre vouloir et qui nous dispose à désirer ce que sa loi nous ordonne par un plaisir plus grand, eh bien, en ce sens, on peut dire effectivement que la grâce de Dieu est irrésistible. Pascal écrit, cette fois-ci c'est dans ses écrits sur la grâce et non plus dans les provinciales, « Le libre arbitre, charmé par les douceurs et par les plaisirs que le Saint-Esprit lui inspire, plus que par les attraits du péché, choisit infailliblement de lui-même la loi de Dieu. » Alors c'est vrai que Pascal pense que la situation d'Adam n'était pas la même que la situation de l'homme déchu. Pourquoi ? Parce que Adam avait conservé ce que l'on pourrait appeler un pouvoir des contraires, et donc il était dans une situation d'indifférence à l'égard du bien comme à l'égard du mal. Mais l'homme déchu conserve certes le libre arbitre, mais en revanche il en a perdu l'exercice. Pourquoi est-ce qu'il en a perdu l'exercice ? Eh bien parce qu'il est tellement affaibli par la chute qu'il ne résiste en fait jamais aux séductions du péché. Voilà pourquoi l'homme actuel n'est plus dans cette situation d'indifférence vis-à-vis du bien et du mal. Il n'est plus dans cette situation dans laquelle Adam se trouvait avant la chute. Mais l'homme actuel est au contraire tiraillé par l'attrait du péché. Et ce que nous explique ici Pascal, c'est qu'il ne résiste en fait jamais à l'attrait du péché sans le secours de la grâce qui le délivre de cette servitude dans le péché. Et comment est-ce que la grâce le délivre de cette servitude dans le péché ? Eh bien précisément en le charmant par une attraction ou par un plaisir plus puissant encore. Voilà pourquoi là où Adam pouvait choisir indifféremment le bien ou le mal, maintenant, écrit Pascal, dans la corruption qui a affecté l'âme et le corps, la concupiscence s'étant élevée a rendu l'homme esclave de sa délectation. De sorte qu'étant esclave du péché, il ne peut être délivré de l'esclavage du péché que par une délectation plus puissante qui le rende esclave de la justice. Vous reconnaissez peut-être chapitre 6 de l'Épître aux Romains où Paul reprend en fait une idée qui était déjà ou Pascal reprend une idée qui était déjà présente chez Paul dans ce chapitre 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette analyse ? Eh bien, on peut conclure finalement que l'opposition de la grâce et du péché, elle est pensée ici dans un rapport de force. Pourquoi dans un rapport de force ? Eh bien, parce qu'il y a d'une part la délectation que l'homme, le plaisir que l'homme prend dans le péché, et d'autre part la délectation que sous la motion de la grâce, l'homme prend dans la loi de Dieu et dans l'accomplissement de cette loi. Et si Pascal considère que cette deuxième délectation est appelée victorieuse, c'est parce que, étant plus forte, elle permet précisément à l'homme de triompher de son péché en vertu d'une attraction supérieure. Voilà pourquoi, précise Pascal, la grâce de Jésus-Christ n'est pas autre chose qu'une suavité et une délectation dans la loi de Dieu, répandue dans le cœur par le Saint-Esprit, qui non seulement égalant, mais surpassant encore la concupiscence de la chair, remplit la volonté d'une plus grande délectation dans le bien que la concupiscence ne lui en offre dans le mal. Et qu'ainsi le libre arbitre, charmé par les douceurs et les plaisirs que le Saint-Esprit lui inspire, plus que par les attraits du péché, choisit infailliblement lui-même la loi de Dieu par cette seule raison qu'il y trouve plus de satisfaction et qu'il y sent sa béatitude et sa félicité. Voilà pourquoi l'homme d'aujourd'hui, étant esclave de sa délectation, suivra infailliblement la délectation de la chair ou de l'esprit et il ne pourra être délivré de l'une de ces délectations que par l'attraction plus puissante de la seconde. Donc le jansénisme, l'augustinisme ne sont finalement que des hédonismes, paradoxalement. Ce sont des hédonismes spirituels, des hédonismes de la grâce. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'éthique puritaine qui a été développée par les protestants en Amérique du Nord ? Je vais terminer là-dessus parce qu'on a souvent accusé le puritanisme d'une sorte de suspicion généralisée à l'égard du plaisir, comme si finalement la jouissance qui serait liée au repos dans l'oisiveté serait synonyme d'une déchéance ou d'une absence de la grâce. Il me semble qu'on fait parfois une confusion entre ce que disent réellement les puritains, les pasteurs puritains, et puis d'autre part ce qu'on a appelé la mentalité puritaine. Et si effectivement cette suspicion à l'égard du péché est présente dans ce qu'on appelle la mentalité puritaine, notamment la mentalité bourgeoise du 19e siècle, en revanche, je vais essayer de montrer qu'on ne la trouve pas chez les pasteurs puritains. Alors c'est un fait que le protestantisme puritain, ça je ne le conteste pas, a mis en avant les vertus éthiques du travail. Parce que le travail, c'est ce qui permet de lutter contre les tentations de la paresse et de l'oisiveté. Et on sait que l'oisiveté est souvent mère de tous les vices. Max Weber a un petit peu, tronqué les choses, notamment dans son ouvrage sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, parce qu'il montre finalement que, pour lui, le développement du capitalisme s'expliquerait par une éthique austère qui viserait à s'interdire de jouir des fruits de son travail. Et alors, c'est ce qui aurait rendu possible, selon Weber, le réinvestissement des gains et des profits qui ne sont pas dépensés dans le processus de production. Et donc, toute la thèse de Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme consiste à montrer finalement que l'esprit du capitalisme ne se séparerait pas d'un tempérament ascétique. Il montre par exemple que si le capitalisme a fini par ruiner tous ses concurrents, c'est parce qu'il surproduit tout en sous-consommant, et donc comme il sous-consomme, il va réinvestir tous ses profits dans son outil de production. Voilà pourquoi le capitaliste, tel que le décrit Weber, n'est absolument pas habité par la soif de l'or ou par l'avidité, mais il produit sans intention de consommer, il s'interdit de jouir de façon futile de la richesse qu'il a gagnée, et notamment il s'interdit d'acheter des objets de luxe ou il s'interdit toute dépense somptuaire. Et donc ce serait finalement une conception de la vie anti-hédoniste qui associerait de manière assez paradoxale une application rigoureuse et méthodique au travail, une production de richesse et un ascétisme dans la consommation et dans le comportement, ce seraient ces dispositions qui auraient donné naissance au capitalisme. Or, Weber pense que ces caractéristiques sont précisément celles que l'on retrouve dans l'éthos du protestantisme, dans l'éthique du protestantisme et notamment, selon lui, dans le calvinisme, dont l'austérité serait inséparable, pense Weber, d'une discipline de vie ascétique qui viserait à interdire le repos dans la jouissance, et notamment dans la jouissance de la consommation. Alors voilà pourquoi, selon Weber, le puritain, tout en méprisant les richesses qu'il produit en abondance, eh bien le puritain s'interdit de jouir de celles-ci, ce qui conduit à faire du capitalisme, qu'il va contribuer à promouvoir puisqu'il va réinvestir tout ce qu'il a produit dans la production. C'est ce qui va faire donc du capitalisme un mode supérieur de production, hein, qui va ruiner tous ses concurrents. Et donc il y aurait en quelque sorte, dans la thèse de Weber, un ascétisme qui serait lié au protestantisme et qui aurait permis de justifier un mode de vie qui serait anti-hédoniste et qui progressivement se serait imposé à tous, même s'il n'était au départ que partagé par une couche minoritaire de la population, c'est-à-dire par les protestants. Alors, est-ce qu'on peut accepter sans réserve ces analyses de Max Weber ? En fait, en lisant ce que disent réellement les pasteurs puritains, je pense notamment au compte-rendu qu'on a fait Edmund Leites dans un livre qui s'intitule « La passion du bonheur » et qui est consacré justement aux puritains, en réalité, il semble que les puritains sont très loin de pratiquer une ascèse intramondaine, sachant que l'ascétisme a plutôt été associé dans l'histoire du christianisme à certaines pratiques monacales. Au contraire, les puritains sont prêts à accueillir tout ce que la nature, c'est-à-dire tout ce que Dieu offre à l'homme pour son propre bonheur. Bien évidemment, il s'agit de ne pas se laisser submerger par la nature, c'est-à-dire qu'il s'agit de rester maître de sa nature, notamment par un bon usage de sa raison, par une certaine gestion de ses plaisirs, parce que c'est la condition pour ne pas devenir esclave du plaisir et pour parvenir à une vie heureuse. Donc on peut penser que cette doctrine puritaine est certes exigeante, parce qu'elle implique une maîtrise de soi, elle implique une certaine discipline de vie, c'est incontestable, mais on ne peut absolument pas affirmer qu'il s'agit là d'un ascétisme. Les puritains, par exemple, ne considèrent pas qu'il y aurait un domaine de la vie qui serait méprisable, hein, qui serait celui du corps et des plaisirs physiques, et puis un domaine qui serait sacré et qui serait le domaine de la vie spirituelle. Au contraire, les puritains se méfient de l'idée d'une vie spirituelle qui serait autonome, hein, qui serait coupée de la vie liée à l'action, de la vie liée au travail. Et donc les plaisirs des sens, les plaisirs de l'action, ne sont pas mauvais en soi. Ils sont au contraire des dons de Dieu, ils sont louables, ils sont condamnables en réalité seulement l'usage que l'on va en faire. Hein, c'est l'usage que l'on fait de ces biens qui permettra de dire si le plaisir est bon, s'il vient de Dieu ou s'il est mauvais. On peut penser que si cet usage nous détourne de Dieu, alors effectivement, cet usage est mauvais. Par contre, si cet usage est un moyen au service de la fin que Dieu a assignée à ses propres dons, à ce qu'il nous donne, eh bien à ce moment-là, on peut considérer que les plaisirs qui sont liés seront bons. Hein, par exemple, le vin est moyen et signe de réjouissance. Le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Et donc, en ce sens, le plaisir du vin est une bonne chose, à condition, bien évidemment, de ne pas tomber dans les excès, c'est-à-dire à condition de ne pas tomber dans l'ivrognerie, ivrognerie qui est honteuse précisément parce qu'elle fait perdre le contrôle de soi. Et donc, ce que cherche à faire le puritain, c'est en fin de compte à sanctifier, c'est-à-dire qu'il veut faire un saint usage de tout ce que Dieu lui a donné et non pas d'évaluer ce que Dieu lui a donné en méprisant, par exemple, les plaisirs qu'il peut retirer de ce que Dieu lui donne. Les puritains ont notamment exalté la famille et le mariage. Parce que si le célibat et la virginité n'ont rien de honteux en soi, et on sait que Paul fait l'éloge du célibat, néanmoins, ils n'ont rien de précieux non plus. Ils ne témoignent pas d'une vocation plus haute, hein, qui rapprocherait davantage l'homme de Dieu. Mais le mariage a été institué à l'origine par Dieu, justement, comme un état qui contribue à l'harmonie humaine. Et cet état est en lui-même parfaitement saint. Voilà pourquoi la famille peut être comparée, en fin de compte, à une petite église dont le père est en quelque sorte l'évêque, ou à défaut la mère. Voilà pourquoi les pasteurs et théologiens puritains ont développé un projet de conjugalité qui, en réalité, est destiné à intégrer à la fois discipline et plaisir, de manière à ce que le mariage puisse être le lieu d'un authentique bonheur. L'amour sensuel est exalté. Il doit favoriser ce but essentiel du mariage qu'est le bonheur. Et donc, contrairement aux idées reçues, les puritains ne pensent pas que le mariage aurait pour unique finalité la procréation. Ils ne pensent pas non plus que le mariage aurait pour unique finalité l'addition de deux patrimoines, mais ils pensent que le but essentiel du mariage consiste plutôt dans le réconfort et l'entraide des époux, sachant que le plaisir sensuel, le plaisir sexuel, est un élément et un ingrédient, évidemment, qui contribue au bien-être de la famille et au bien-être du couple. On voit même des textes qui stipulent que l'orgasme partagé n'est absolument pas quelque chose de vil et d'animal, mais au contraire, il exprime et fortifie l'amour, il fortifie l'affection que le mari et la femme ont l'un pour l'autre. Par contre, ce qui est condamné, évidemment, c'est la fornication, c'est l'adultère, hein, qui vont être vus comme des crimes contre l'amour conjugal. Donc le mariage est le moyen d'intégrer la force de la passion et du plaisir à l'intérieur d'un cadre de vie qui soit constructif pour le plus grand bonheur de la famille. Le mariage est aussi, et enfin, aussi une expérience d'amitié, amitié entre l'homme et la femme, sachant qu'en dehors du mariage, eh bien, il ne peut, selon les puritains, n'y avoir que la passion et ses ravages. Donc les époux doivent aussi être une entraide l'un pour l'autre, mais les meilleurs amis. Ce plaisir et cette amitié doivent durer et non pas disparaître au fil des années. Alors, en même temps, ce qui est assez intéressant dans l'éthique puritaine, c'est qu'elle a fondamentalement modifié l'image de la femme. Parce qu'auparavant, la femme était souvent considérée finalement comme un être plus sensuel, plus concupiscent que l'homme, plus fragile aussi, plus facilement tentée. Vous savez bien que dans l'Éden, c'est à la femme que le serpent s'en est prise en premier. Et la femme est aussi donc non seulement plus fragile, mais elle est aussi finalement la tentatrice, c'est-à-dire celle qui fait tomber l'homme dans ses filets. Ce sont d'ailleurs des textes qu'on retrouve parfois dans l'Ancien Testament. Mais avec le puritanisme, c'est une toute autre image de la femme qui va s'imposer. C'est la femme qui va devenir plus vertueuse que l'homme. C'est elle qui, dans le cadre du mariage, va assurer le triomphe de la vertu en éduquant l'homme, alors que l'homme sera vu au contraire comme plus grossier et notamment plus sensible aux pulsions du désir sexuel, notamment dans ce qu'il n'a pas de discipliné. Donc l'homme puritain se reconnaît comme un être de désir, tandis que la femme doit prendre en charge la gestion de ce désir. Elle doit l'inscrire dans un ordre qu'on appelle l'ordre conjugal, qui va permettre tout à la fois à ce désir de s'exprimer, mais de s'exprimer sans danger, ni pour l'individu, ni pour la société. Donc il y a véritablement une valorisation de la femme ici. La femme est la gardienne du foyer, elle est aussi l'épouse vertueuse et aimante, elle est l'éducatrice des enfants. Alors évidemment, vous allez trouver que cette valorisation est peut-être trop stéréotypée culturellement, parce qu'on peut penser qu'elle contribue aussi à renforcer, eh bien, je dirais, le, la position de domination de l'homme sur la femme. Mais cette volonté de contrôler la sexualité, tout en lui reconnaissant toute son importance, va conduire à une intériorisation qui est typique de la morale protestante, parce qu'un peu à l'image du péché, la sexualité est considérée comme étant toujours présente en l'homme, même quand le désir fluctue, même lorsque le désir disparaît. Et c'est la raison pour laquelle il y a en quelque sorte un mystère de la sexualité pour l'homme occidental, mystère qui ne serait pas lié à la prétendue répression qu'auraient causé les tabous judéo-chrétiens, mais qui est plutôt lié au souci de donner toute sa place au désir et à la sexualité. Simplement, cela se fait évidemment dans le cadre d'une conjugalité épanouie au sein du puritanisme. Alors pour conclure, je dirais qu'on voit que la vision chrétienne du corps, le statut que le christianisme réserve au plaisir, est finalement plus nuancé que les clichés qu'on présente habituellement. Le christianisme, bien compris, n'a jamais été un dualisme, même s'il a été traversé, et ce dès ses origines, par des tendances gnostiques, par des tendances manichéennes, qui ont parfois perverti le message originel. Il est certain qu'il y a eu au sein même du christianisme des pratiques déviantes. Je pense notamment aux pratiques de flagellation, pratiques qui ont pu laisser croire que le christianisme se caractérisait par un mépris du corps, par la recherche d'une forme d'héroïsme spirituel dans l'ascèse, héroïsme, vous savez, dans lequel Nietzsche voyait la manifestation la plus crue d'une volonté de puissance inversée, c'est-à-dire d'une volonté de puissance, finalement, qui se caractérise ici par une hostilité à l'égard de la vie, d'où les critiques très acerbes de Nietzsche vis-à-vis de certaines pratiques déviantes du christianisme et notamment vis-à-vis d'une certaine forme d'ascétisme. Alors c'est vrai que le christianisme, et saint Paul le Premier a insisté sur la nécessité d'une certaine discipline du corps, parce qu'il faut tenir le corps en bride, mais il a aussi mis en avant la nécessité d'une, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, la nécessité d'une conjugalité qui puisse être épanouie et qui n'est nullement liée évidemment à un refus des plaisirs charnels, puisque ceux-ci font partie des agréments que Dieu a voulu pour notre plus grand bonheur. Simplement, il faut éviter de devenir l'esclave du plaisir. Alors c'est vrai qu'on pourra toujours chicaner et on pourra toujours montrer que l'Église a toujours voulu encadrer la sexualité par des pratiques légitimes et par des pratiques interdites, ce qui est peut-être, comme le dit Foucault, un moyen d'assurer un certain contrôle des corps. C'est ce que Foucault appelle les biopouvoirs. Mais par rapport à cette critique de l'encadrement finalement de la sexualité, il me semble qu'on peut faire deux remarques. D'abord, première remarque, en ce qui concerne l'homme charnel, il me semble que c'est le désir de l'interdit qui, d'une certaine manière, est constitutif du plaisir. Parce que pour l'homme charnel, finalement, c'est la transgression des interdits qui pimente le plaisir. Et l'on sait bien, la Genèse nous le montre, que l'interdit dote en quelque sorte l'objet de cet interdit d'un attrait qu'il n'aurait pas sans lui. Probablement que si Dieu n'avait pas interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien probablement n'en aurait-il pas même eu l'idée. Et donc ce qui menace une société comme la nôtre, c'est-à-dire une société qui refuse tous les tabous, qui refuse tous les interdits, c'est le risque, c'est ce que rappelle Jean-Claude Guilbault, d'une exténuation du désir, faute précisément d'interdits à transgresser. Et donc, à contrario, on peut penser qu'il y a peut-être une réelle sagesse dans le souci chrétien d'encadrer le désir. Parce qu'on sait très bien que la chair laissée à elle-même, sans la règle qui permettrait de la stimuler, la chair laissée à elle-même est triste, comme le dit très bien Mallarmé. Et donc la règle, finalement, elle entretient le désir qu'elle contribue, d'une certaine manière, à intensifier, tout en lui fixant un cadre. Un cadre qui permet de fixer ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est la première remarque. La dernière remarque, la deuxième remarque que je ferai, c'est que le christianisme biblique, qui est le christianisme dont je me réclame personnellement, est finalement relativement discret en matière de morale sexuelle et en matière de sexualité conjugale. On ne trouve absolument pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est moins vrai parce qu'il y a effectivement des interdits liés à la sexualité, Mais dans le Nouveau Testament, on ne trouve absolument pas de codification de pratiques permises et défendues, comme celles que l'on peut rencontrer, par exemple, dans certains catéchismes du XIXe siècle. Ce que l'on trouve, c'est uniquement le respect de certains grands principes qui visent à interdire, finalement, tout ce qui contrarie le plan de Dieu, ce qui est le cas, par exemple, de la fornication, de l'adultère ou de l'homosexualité. Mais pour le reste, le Nouveau Testament ne donne aucune indication. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien, me semble-t-il, doit seulement veiller à ne pas faire de l'autre un objet de plaisir et de jouissance. Il doit veiller à ne pas profiter égoïstement de l'autre pour son propre plaisir, parce que c'est peut-être la meilleure manière de tuer l'amour. Mais il doit surtout s'assurer que l'autre, et ce même lorsqu'il se fait objet de désir, il faut que l'autre se sente respecté comme un sujet à part entière, car c'est seulement ainsi que la communion des corps pourra être vue comme étant le signe et le sacrement de la communion des cœurs.